ton temps universel.
Orange, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, où que vous soyez à travers le monde, abusez du téléphone. Rejoignez-nous, on vous donne la parole pour commenter tous les sujets qui vous intéressent dans l'actualité de la semaine. Nous allons parler notamment de la situation dans la bande de Gaza. Plusieurs commentaires nous sont arrivés au standard, donc on va vous donner la parole. On parlera également de la Centrafrique. Nous parlerons certainement, parce qu'on me dit qu'on a eu quelques appels, de la hausse des prix du carburant au Cameroun. Donc tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, les réseaux sociaux, forcément la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité, c'est la seule page sur laquelle vous pouvez véritablement nous laisser vos coordonnées, et nous vous rappelons évidemment avec plaisir la situation donc dans la bande de Gaza, où hier soir l'armée israélienne a lancé une opération terrestre. Élie, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes scandalisé, choqué vous par la non-réaction de la communauté internationale.
Tout à fait Juan, franchement je suis sidéré, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Israël se permet de bombarder des civils, 70% des personnes tuées à Gaza sont des civils, selon l'ONU. Et il n'y a aucune réaction de la part de la communauté internationale pour empêcher l'escalade de la violence. Aujourd'hui, on prend juste des communiqués, on dit « entendez-vous, faites un cessez-le-feu ». Mais finalement, ça ne porte rien parce que la preuve, Israël a lancé son offensive terrestre, qui veut dire qu'on aura encore plus de personnes civiles tuées, plus d'enfants tués, comme c'est le cas depuis le début de ces bombardements-là. Mmh. Et pendant ce temps, la communauté internationale observe, regarde. Moi, je trouve que c'est tellement injuste quand on sait qu'il y a par exemple des sanctions qui sont très vite décidées contre Vladimir Poutine ou bien Bachar el-Assad. En deux semaines, la communauté internationale arrive à mettre la pression pour obtenir ce qu'elle veut. Mais au niveau de Netanyahou, il n'y a rien qui est fait. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas des sanctions contre lui?
Vous avez l'impression donc que la communauté internationale, Élie, fait preuve d'inertie. Alors effectivement, pour l'instant, il y a des communiqués. Il y a eu une réunion d'urgence, mais c'était la semaine dernière, après 4 ou 5 jours de raid. Effectivement, certains diront que c'est évidemment trop tard, mais le Conseil de sécurité de l'ONU, après cette réunion, s'est contenté effectivement de déclarations symboliques en appelant les deux parties, Israël et le Hamas, à cesser le feu, à respecter les lois humanitaires internationales, notamment sur la protection des civils. Vous pointez du doigt le Conseil de sécurité de l'ONU. En même temps, on peut aussi s'interroger sur le quasi-silence des pays arabes qui pourraient, eux, pour le coup, être davantage concernés par le sort des Palestiniens et de la population de Gaza.
Tout à fait, Juan. Ce silence, le silence des pays arabes, mais vraiment, il est plus assourdissant même que celui de l'ONU. C'est pas possible, c'est-à-dire il n'y a aucune réaction, il n'y a même pas de lever de bouclier. Il y a l'Iran qui est autour, il y a l'Irak, il y a tous ces pays-là, il y a le Royaume, les Émirats Arabes Unis, mais qui dit rien et qui laisse faire. Et aujourd'hui, Netanyahou a l'impression que c'est un laisser-aller, on lui donne la permission en quelque sorte. Vas-y, fais ce que tu veux. Et voilà, quand tu es fatigué, tu arrêtes.
Ouais. Ne raccrochez pas, Élie, on vous sent très en colère. Youssouf, lui, nous appelle du Kenya. Il est à Nairobi. Bonjour, Youssouf.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous souhaitiez également vous exprimer sur la spirale de la violence israélo-palestinienne.
Oui, mais le problème, c'est quoi? Ce qui se passe à Gaza, je veux dire, les dirigeants du Hamas sont directement responsables de ce qui se passe. Ils ne sont plus à la hauteur de rien. C'est pourquoi ils sont dans une logique de guerre. Israël a le droit de se défendre. Vous avez les rapports de force sur le terrain sont absolument inégaux. Comment un faible peut refuser de négocier avec un fort quand le fort veut négocier? Donc les dirigeants du Hamas sont directement responsables. J'appellerais plutôt Israël à laisser l'attaque terrestre, mais à procéder maintenant par des attaques ciblées des membres du Hamas, parce qu'ils ne sont plus à la hauteur de rien. Ils n'écrivent plus rien.
Enfin, officiellement, excusez-moi, Youssouf, depuis le début, les raids sont censés viser des infrastructures abritant des membres du Hamas. Donc, depuis le début, les raids sont des raids ciblés. Bon, il y a effectivement énormément de victimes. Tout à l'heure, Ange en colère le rappelait, effectivement, la majorité des victimes sont des civils. Élie, comment vous réagissez lorsque Youssouf dit, voilà, le principal responsable aujourd'hui, c'est le Hamas? Élie?
Le Hamas est en train de négocier. Khaled Meshad l'a dit. Dès que, d'abord, faut rappeler légèrement la chronologie.
Attendez, on va pas refaire toute l'histoire, mais quand vous dites que le Hamas est en train de négocier, le Hamas, par exemple, a refusé le cessez-le-feu proposé par l'Égypte, ce qu'a pourtant accepté Israël dans un premier temps.
Oui. Khaled Meshad a dit que c'est pas vrai. Et en plus, au Caire, il y a bien des négociations qui ont lieu. Mais est-ce que pendant qu'on négocie, Israël arrête de bombarder?
Non mais attendez.
Israël continue de bombarder pendant qu'on négocie.
Attendez, il y a eu une proposition, excusez-moi, vous vouliez refaire le rappel des faits, mais enfin, excusez-moi, moi je vais le rappeler. Il y a quand même eu une proposition égyptienne il y a 48 heures pour un cessez-le-feu. Israël l'a accepté. En revanche, le Hamas l'a refusé, puisque le Hamas mettait un certain nombre de conditions sur la table pour accepter ce cessez-le-feu, et notamment la libération de prisonniers qui ont été arrêtés récemment après avoir été relâchés il y a plusieurs semaines. Voilà, ça c'était la principale exigence du Hamas pour accepter le cessez-le-feu. Youssouf, en même temps, vous dites qu'Israël a raison d'intervenir. Israël est dans son droit de se protéger. Est-ce que la réaction israélienne n'est pas disproportionnée tout de même?
Non, elle n'est pas disproportionnée parce que quoi? Quels sont les attributs des dirigeants des populations? C'est de protéger leur population. Le Hamas, actuellement, ils ne sont plus capables. Ils sont les premiers à violer la trêve. Alors, Israël doit-il croiser les bras et voir le Hamas lancer les obus sur son territoire? Non, ils ont le droit de se défendre. La réalité, c'est que le Hamas, les dirigeants du Hamas ne sont plus à la hauteur de la situation. Il faut les changer.
Ouais. Mais vous dites, excusez-moi Youssouf, vous dites Israël a le droit de se défendre. En même temps, Israël a mis en place, vous le savez, ce système, ce dôme qui permet d'intercepter les roquettes. C'est un système qui fonctionne très bien, on peut le dire. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut pour autant lancer une intervention terrestre comme l'a fait l'armée israélienne il y a maintenant 12 heures?
Je suis aussi d'accord que l'intervention terrestre n'est pas une solution. Parce que là maintenant, c'est quoi? Les dirigeants du Hamas, j'insiste, sont dépassés par les événements. Ils ne sont plus à la hauteur de l'événement politique de sécuriser les populations. Alors il faut changer ces dirigeants. En faisant quoi? En ciblant ces dirigeants un par un et les éliminer, c'est tout. Ramener du sang neuf, ramener des gens qui ont une vision beaucoup plus évolutif de la situation. Parce qu'actuellement, ils ne peuvent plus rien proposer. Alors, ils s'enchaînent dans la logique de guerre parce qu'ils n'ont plus rien à proposer à la population. Vous connaissez, M. Rouen, les populations de Gaza ont plus peur même des dirigeants qu'Israël. Le premier ennemi, même, c'est d'abord
Hamas. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Les dirigeants de Gaza ont, malgré tout, que ça vous plaise ou pas, Youssouf, voté pour le Hamas lors des dernières élections. Le Hamas a remporté ces élections sur place. Merci à tous les deux. Voilà, deux points de vue divergents sur ce dossier. Et dossier, évidemment, à suivre tout au long de la journée avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux en Israël et dans la bande de Gaza. 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. La Centrafrique, on en parle dans un instant, et on en parlera certainement la semaine prochaine, puisqu'à partir de lundi se tiendra à Brazzaville au Congo un forum qui est censé rassembler les différents acteurs de ce conflit pour obtenir un cessez-le-feu. Alban, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes dans la capitale centrafricaine, vous nous appelez de Bangui, et vous ne comprenez pas que ce forum, qui est donc censé aboutir à la paix, se déroule dans une capitale étrangère, dans un autre pays.
Effectivement Juan, je n'arrive pas à comprendre, nous sommes dans un état souverain, et c'est une question de principe, c'est important que nos problèmes soient traités à l'intérieur même de nos états, que d'être traités à l'extérieur par la communauté internationale. Et autre chose, il y a également les grandes lignes qui ont été taillées, qui sera prises en compte au courant de ce forum. On nous parle qu'il sera de l'organisation, des préparatifs pour l'organisation de dialogue politique, oui, inclusif. Or, présentement, je pense souvent parle que l'urgence, c'est le désarmement. Il y a la résolution 2121 des Nations Unies qui est très claire. On demande à la force sahraouiste et MINUSCA de désarmer. Dans ce contexte, pourquoi voulez-vous, comment peut-on aller au dialogue sans qu'il y ait désarmement?
Mais en même temps, vous ne pensez pas, Alban, le dialogue politique, vous ne pensez pas que c'est quand même un passage obligé pour aboutir à la paix?
Je pense pas, Monsieur Wan, je pense pas. Le passage obligé pour le moment, c'est le désarmement sans condition de tous les groupes armés qui empêchent la population de vaquer librement à leurs occupations. Je pense que c'est en ce moment-là qu'on peut parler de dialogue. Autre chose également, on ne peut pas, avec qui on va dialoguer? Les bourreaux sont là, il n'y a pas la justice pour les victimes. Comment voulez-vous qu'on aille au dialogue? Je pense qu'il est important que la communauté internationale puisse renoncer à l'organisation de ce forum et mettre l'action, la pression sur les forces sahraouies et MINUSCA qui sont là et qui ne foutent rien pour désarmer ces groupes armés qui continuent de nous terroriser.
Donc vous accusez les forces étrangères présentes, internationales pour être précis, la MINUSCA, 5800 hommes, 2000 soldats français sangaristes, plus les 10 000 casques bleus qui seront déployés dans votre pays dans un mois et demi, à la mi-septembre. S'il n'y a pas de désarmement, ça signifie quoi selon vous? Qu'on encourage d'une certaine façon l'impunité et que demain n'importe qui pourra brandir des armes, créer un mouvement de rebelles et s'accaparer du pouvoir?
Exactement. C'est notre souci pour le moment. On sait que le forum qui sera organisé, on va dérouler le tapis sur les bourreaux. Je parle de ceux qui sont les deux ex-coalitions Séléka qui continuent de nous martyriser. Comment, dans ce contexte-là, vous voulez qu'on aille au dialogue? Il faut que ces gens-là soient traduits devant la justice pour que les victimes puissent avoir quand même une récompense pour qu'il n'y a plus l'impunité dans ce pays. Et vous voyez, même au sein même de la capitale, il y a certains quartiers qu'on ne peut pas y aller parce que les gens ont encore les armes entre leurs mains. Et dans ce contexte-là, vous pensez qu'il est important qu'il faut qu'on organise ce fameux dialogue national? Je pense sûrement pas. Il est important que la communauté internationale renonce la réalisation
à ce forum. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous aurez peut-être l'occasion la semaine prochaine d'en débattre avec Zéphirin Quadio, puisque c'est Zéphirin qui sera à ce micro et qui vous accompagnera durant les prochaines semaines. Merci à vous. Bonne journée, bon courage, Alban. Vous nous écoutez à Bangui. Nous allons à Berlin avec Eric qui patiente au téléphone. Bonjour, Eric.
Bonjour Juan, bonjour à tous ceux qui vous aident dans l'ombre pour l'exécution de cette émission.
Et je les remercie évidemment infiniment. Sans eux, je ne pourrais pas vous parler en ce moment, et notamment évidemment aux techniciens. Vous avez un coup de gueule. On va avec vous parler d'un sujet beaucoup plus léger que les précédents. Coup de gueule contre la désignation de Lionel Messi comme meilleur joueur de la Coupe du Monde de football.
Oui, Juan, justement, j'ai été très très déçu, je veux dire très choqué de comprendre que Lionel Messi, une fois de plus, a été le meilleur joueur de la compétition. Voilà, moi, je me pose la question de savoir quels sont les critères, en fait, parce que quand nous regardons la compétition déroulée, c'est vrai que Lionel Messi était un joueur de grande valeur, c'est vrai qu'il a eu des buts décisifs et certaines passes, mais quand nous regardons les deux derniers matchs, par exemple, la demi-finale et la finale, vraiment, il n'a pas été top de sa performance. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu mériter donc ce trophée de meilleur joueur, par exemple, Arjen Robben, pourquoi pas Toni Kroos ou bien Müller. Nous avons vu des joueurs dans les bonnes performances, par exemple comme le joueur colombien James Rodriguez. Donc Juan, je trouve qu'il y a des choses, et qu'on a l'impression que cette nomination est beaucoup plus sur le plan marketing, comme si la FIFA voit en connivence avec Adidas grimpe donc la côte de Lionel Messi.
Alors c'est vrai que c'est vous n'avez pas tort, et c'est vrai que bon, déjà il faut être clair, c'est vrai que nombreux sont les passionnés de football qui sont surpris quand même par cette désignation. Même le patron de la FIFA, Sepp Blatter, s'est dit un peu surpris quand il a vu que Messi avait été désigné meilleur joueur. Mais vous pointez du doigt le marketing. C'est vrai que c'est un trophée qui est quand même sponsorisé par des partenaires. Et Maradona a peut-être dit tout haut ce que ne peuvent pas dire certains responsables du football international. Il a dit c'est injuste de récompenser uniquement Messi pour des raisons marketing. Récompenser quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc voilà, en tout cas, le coup de gueule a été poussé. Eric, vous avez pu le formuler en direct sur l'antenne d'RFI. Bonne journée à Berlin. Joseph, il est étudiant congolais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Joseph, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et comme la centaine d'étudiants congolais de cette université à Dakar, vous êtes en colère contre les autorités congolaises.
Effectivement, Juan, nous sommes très remontés contre le gouvernement congolais qui est resté inactif face au désarroi dans lequel se trouvent les étudiants congolais de l'ICAT qui sont confrontés à une augmentation exorbitante des frais d'inscription. À titre d'exemple, Juan, un étudiant inscrit en Master 2 qui devait payer 150 000 francs devra dorénavant débourser 500 000 francs CFA, donc environ 1 000 dollars qu'il doit payer du cours, devant des montants aussi élevés et notre impossibilité de pouvoir les payer. Nous nous sommes rapprochés de nos gouvernants pour leur demander de signer avec le Sénégal un accord, comme l'a fait le Tchad qui a signé avec le Sénégal un accord qui permet aux étudiants tchadiens de s'inscrire au même taux que les étudiants sénégalais. En réponse à notre demande, Juan, le gouvernement congolais nous a assuré qu'il prendra en charge la totalité des inscriptions des 108 étudiants congolais de l'UCAD qui se lèvent à 41 000, donc moins de 100 000 dollars, et qu'un accord sera signé pour l'avenir. Ouais. À notre grande surprise, Juan,
Attendez, je vais continuer à vous donner la parole, je ne vous inquiétez pas, parce que vous avez été nombreux, hein, les étudiants congolais de Cheikh Anta Diop, à vous mobiliser, nous envoyer des courriers électroniques pour absolument en parler dans cette antenne. En tout cas, on a eu l'occasion dans les journaux d'RFI Afrique de parler de votre situation, notamment la semaine dernière, puisque vous avez manifesté devant l'ambassade du Congo-Brazzaville de Dakar. Vous avez obtenu gain de cause, à partir évidemment de l'année prochaine. Ça signifie quoi, Joseph, que l'année en cours, enfin, l'année qui vient de se terminer, c'est une année pour rien pour vous, puisque vous n'avez pas pu étudier, finalement?
Non, Rod, il faut faire une précision. Nous n'avons encore rien obtenu.
Vous avez la promesse, la promesse verbale. Maintenant, il faut débloquer les fonds.
Justement, Juan, on nous a promis avant qu'on allait payer nos inscriptions, ce qui n'a pas été fait pour cette année, et on nous promet pour l'avenir. Mais comment peut-on croire en une promesse à des gens qui nous ont promis, qui n'ont pas réalisé et qui nous promettent à nouveau? Alors qu'ils nous ont assuré que cette année sera prise en charge. Et à quelques semaines des examens, ils nous disent qu'ils se désengagent. Pour quelle raison? Parce que 41 millions n'a pas été prévu dans le budget du Congo, État pétrolier. Et on nous reproche d'avoir des opposants derrière nous qui nous manipulent de manière à discréditer les pouvoirs, ce qui est absolument faux.
Bon, en tout cas, vous avez pu vous exprimer, Joseph, sur l'antenne des RFI. Vous êtes fait, d'une certaine façon, le porte-parole de cette centaine d'étudiants congolais de Cheikh Anta Diop. Et on salue tous les étudiants de cette université qu'on connaît bien sur RFI et qu'on aime bien dans l'émission, puisqu'on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de nous installer quelques jours à Cheikh Anta Diop, dans cette université, pour réaliser des émissions. Guy Hervé, me dit-on, est au téléphone. Guy Hervé, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes taxi-moto, c'est ça?
Oui Juan.
Et vous nous appelez du Cameroun, vous réagissez sur l'augmentation des prix du carburant?
Oui en effet Juan.
Eh bien allez-y, profitez-en, on vous donne la parole, vous teniez à vous exprimer.
Oui, je tenais à m'exprimer sur le fait que les partenaires sociaux veulent organiser des grèves au Cameroun sur le prétexte que le coût de la vie est cher et que le prix des denrées alimentaires augmenté. Mais moi, je dis que c'est de la grosse foutaise parce que nous, en tant que mototaxi, très souvent, on veut nous instrumentaliser pour créer des désordres qui vont conduire à peut-être les émeutes de 2008 qui étaient les grèves de la faim.
Oui. Mais Herman, il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'effectivement, les subventions du carburant n'existent plus. L'essence n'est plus subventionnée. Et vous nous dites que malgré cela, vous n'avez pas constaté, vous, une augmentation des prix du carburant comme l'affirment les syndicats.
On a augmenté une augmentation du prix du carburant, mais au niveau on a une augmentation de 81 francs sur le litre. Nous, les transporteurs, lorsqu'on travaille surtout dans le secteur des taxis-moto, c'est des négociations de gré à gré. C'est-à-dire c'est avec le client qu'on négocie le prix de la course. Et les courses minimum de 100 francs sont toujours là. Une femme qui va au marché, elle va payer toujours 100 francs. On rééquilibre le prix du carburant, la hausse du prix du carburant, lorsque on porte des clients qui vont dans de longues distances.
Ah bah oui. Bah, vous avez bien fait de nous appeler, Hervé, pour nous apporter cette précision, d'autant que tout à l'heure, on en parlait effectivement avec Jean-Pierre Boris. On répondait à une question d'un auditeur. Merci à tous de votre fidélité. Je vous le disais, à partir de lundi, vous retrouverez à ce micro Zéphirin Quadio, et Zéphirin vous proposera lundi de dresser un bilan de la tournée africaine de François Hollande, et vous reviendrez surtout sur les étapes nigériennes et tchadiennes, où le président Hollande lancera le nouveau dispositif antiterroriste français.